Chapitre 7. Encore une semaine passée, et tous les jours je me rapproche davantage de la santé et du printemps. J'ai maintenant entendu toute l'histoire de mon voisin en différentes séances, dès que ma ménagère pouvait se distraire d'occupations plus importantes. Je vais continuer le récit dans ses propres termes, seulement un peu condensé. Elle est somme toute une excellente conteuse et ne croit pas capable d'améliorer son style. Le soir même de ma visite au Haut de Hurlevent, reprit-elle, je savais bien que M. Heathcliff était aux alentours de la grange, et j'évitais de sortir parce que je portais encore sa lettre dans ma poche et ne voulais pas être menacé ou tracassé davantage. Ne pouvant deviner l'impression qu'en aurait Catherine, je m'étais résolu à ne pas la lui remettre avant que mon maître ne fût sorti pour quelques courses, et la conséquence fut que je ne pus la lui remettre avant 3 jours. Le 4e jour était un dimanche, et je profitais du départ de toute la maison pour l'église pour porter ma lettre dans la chambre de ma maîtresse. Il n'y avait qu'un domestique et moi, et contrairement à l'habitude, je laissais les portes ouvertes. Puis, sachant qui allait venir et voulant tenir ma promesse, je dis à mon compagnon que la maîtresse désirait beaucoup avoir des oranges et qu'il devait courir au village pour en acheter. Il partit et je montai. Madame Linton était assise, suivant son habitude, dans le retrait de la fenêtre ouverte. Elle était vêtue d'un peignoir blanc avec un léger châle sur les épaules. Sa chevelure longue et épaisse avait été en partie coupée au début de sa maladie et maintenant elle la portait simplement peignée en petites tresses sur les tempes et le cou. Comme je l'avais dit à Heathcliff, son apparence était changée, mais quand elle était calme, ses traits acquéraient une beauté surnaturelle. L'éclat de ses yeux avait été remplacé par une douceur rêveuse et mélancolique. Il ne donnait plus l'impression de regarder partout alentour, mais semblait toujours porter au-delà, bien loin au-delà, vous auriez dit hors du monde. Et puis la pâleur de sa face, qui avait cessé depuis peu d'être hagarde, et l'expression particulière qui venait de son état mental, tout cela tout en rappelant douloureusement les causes qui le faisaient naître, tout cela ajoutait à l'intérêt touchant qu'elle éveillait. Et tout cela, pour moi du moins, réfutait toute l'épreuve d'une convalescence et la montrait comme un être condamné à périr. Un livre était ouvert devant elle sur le rebord de la fenêtre et un vent à peine perceptible agitait par intervalles ses pages. Je crois que c'était Linton qui l'avait mis là, car jamais elle n'essayait de se divertir en lisant ou en s'occupant de quelque façon, et souvent il passait des heures à essayer d'attirer son attention sur un sujet qui jadis l'avait amusé. Elle se rendait bien compte des intentions de son mari, et dans ses meilleures humeurs, elle supportait tranquillement ses efforts, témoignant seulement de leur inutilité par un soupir de fatigue, jusqu'à ce qu'enfin elle l'arrêtait par un sourire et un baiser plein de mélancolie. D'autres fois, elle se détournait vivement, cachait son visage dans ses mains ou même le repoussait avec colère. Et alors, il avait bien soin de la laisser seule, étant assuré de ne lui faire aucun bien. Les cloches de la chapelle de Jim Merton sonnaient encore, et le courant rapide et plein du ruisseau dans la vallée arrivait aux oreilles comme une caresse, remplaçant doucement le murmure du feuillage qui, l'été, ne manquait pas d'entourer la grange de sa légère musique. Au Haut d'Hurlevent aussi, on entendait ce bruit du ruisseau dans les jours tranquilles qui suivaient une grande averse ou une saison de pluie obstinée. Et c'est seulement au Haut d'Hurlevent que Catherine pensait en l'écoutant, si du moins elle pensait ou écoutait, en aucune façon, car elle avait ce regard vague et lointain dont je vous ai parlé, elle ne semblait reconnaître les choses ni par l'oreille ni par les yeux. Voici une lettre pour vous, Madame Linton, dis-je, mettant doucement le papier dans la main qui reposait sur son genou. Il faut que vous la lisiez tout de suite, parce qu'on attend une réponse. Dois-je briser le cachet ? Oui, répondit-elle sans songer la direction de ses yeux. Je l'ouvris, c'était un très court billet. Maintenant, dis-je, lisez-le. Elle retira sa main et le laissa tomber. Je le lui remis entre les doigts et j'attendis qu'il lui plût d'y jeter les yeux, mais comme le temps se passait sans qu'elle eût l'air d'y faire attention, « Voulez-vous que je vous le lise, madame, dis-je, de M. Heathcliff ?» Elle tressaillit. Un souvenir passa vaguement dans son regard, et je vis qu'elle luttait pour ressaisir ses idées. Elle souleva la lettre et sembla la parcourir, et lorsqu'elle arriva à la signature, elle eut un soupir. Et pourtant je vis qu'elle ne s'était rendue aucun compte de son contenu. Car quand je lui demandai la réponse, elle se contenta de me montrer le nom et de me regarder avec une anxiété triste et curieuse. « Eh bien, il désire vous voir, » dis-je, devinant qu'elle cherchait un interprète. « Il est maintenant dans le jardin et s'impatiente de savoir quelle réponse je lui apporterai. » Tandis que je parlais, je remarquai un grand chien étendu sur l'herbe au soleil. Je le vis lever l'oreille comme s'il allait aboyer, puis l'abaisser, et annoncer par un mouvement de sa queue l'approche de quelqu'un qu'il ne considérait pas comme un étranger. Madame Linton se pencha en avant et écouta, retenant son souffle. La minute d'après, un pas traversa le corridor. La maison ouverte était pour Heathcliff une chose trop tentante pour qu'il eût pu s'empêcher d'y entrer. Probablement, il avait supposé que je ne voulais pas tenir ma promesse, et s'était ainsi résolu à se fier à son audace. Avec une anxiété croissante, Catherine regardait vers l'entrée de sa chambre. Comme il n'avait pas trouvé de suite l'appartement où nous étions, elle me fit signe de le faire entrer. Mais déjà, il avait trouvé avant que je n'arrive à la porte, et en un moment, il était près d'elle et la tenait embrassée. Il ne dit pas un mot et ne lâcha pas son étreinte pendant 5 minutes. Et pendant ce temps, il lui donna plus de baisers qu'il n'en avait jamais donné, j'en suis sûr, dans toute sa vie jusque-là. Mais c'était ma maîtresse qui lui avait donné le premier baiser, et je voyais clairement qu'il ne pouvait se résigner à la regarder au visage. Dès l'instant où il avait aperçu, il avait été comme moi surhappé de la certitude qu'il n'y avait aucun espoir pour elle de recouvrer la santé et qu'elle était condamnée à mourir. « Oh, Cathy, oh, ma vie, comment pourrais-je le supporter ?» Ce fut la première phrase qu'il dit, et sur un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis il la fixa d'un air si sérieux que je crus que l'intensité même de son regard le ferait pleurer. Mais ses yeux brûlaient d'angoisse et restaient secs. « Et quoi ?» demanda Catherine, s'appuyant de nouveau au dos de son fauteuil et répondant à son regard, le sourcil tout d'un coup froncé. Son humeur ne cessait pas de changer au cours des caprices les plus divers. « Vous, Edgar, vous avez brisé mon cœur, Heathcliff. Et tous les deux, vous venez pour vous plaindre de la chose devant moi comme si c'était de vous qu'il y avait à avoir pitié. Je n'aurai pas pitié de vous pour ce qui est de moi. Vous m'avez tué. » Et vous l'avez fait exprès, je pense. Comme vous êtes fort. Combien d'années comptez-vous vivre encore après que je serai morte ? Heathcliff s'était agenouillé pour l'embrasser. Il essaya de se relever, mais elle saisit ses cheveux et le retint agenouillé. Je voudrais pouvoir vous tenir ainsi jusqu'à ce que nous soyons morts l'un et l'autre, dit-elle amèrement. « Ne me soucie pas de vos souffrances. Qu'importe que vous souffriez, ce que je ne souffre pas, moi, Allez-vous m'oublier? Allez-vous être heureux quand je serai dans la terre? Direz-vous dans 20 ans d'ici, ceci est le tombeau de Catherine Hershaw. Oh, je l'ai aimée autrefois, et j'ai souffert de la perdre, mais c'est fini. J'en ai aimé bien d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elle ne l'a été, et quand je mourrai, au lieu de me réjouir d'aller vers elle, je m'affligerai d'être forcé de les quitter. Direz-vous cela, Heathcliff? Ne me torturez pas alors que je suis aussi fou que vous, cria-t-il, relevant brusquement la tête et grinçant des dents. Tous deux formaient pour un spectateur indifférent un tableau étrange et terrible. Catherine pensait sans doute que le ciel serait pour elle une terre d'exil si, avec son corps mortel, elle perdait aussi son caractère moral. Sur ses joues pâles brillait une lumière sauvage et vindicative. Ses lèvres étaient décolorées et ses yeux brillants, et elle gardait dans ses doigts fermés quelques boucles des cheveux qu'elle venait d'étreindre. Son compagnon, se soulevant d'une main, de l'autre lui avait pris le bras, et la douceur qu'il y mettait était si peu proportionnée à celle qu'exigeait sa condition que je vis qu'il avait laissé 4 marques bleues très distinctes sur la chair de Catherine. « Mais êtes-vous possédé d'un démon ?» poursuivit-il furieusement, « pour me parler de cette sorte alors que vous êtes mourante. Songez-vous que toutes ces paroles s'enfonceront dans mon souvenir et me rongeront toujours davantage après que vous m'aurez quitté? Vous savez bien que vous mentez en disant que je vous ai tué. Vous savez, Catherine, que je ne pourrai jamais vous oublier. Ne suffit-il pas, votre infernal égoïsme, de songer que pendant que vous-même reposerez en paix, je me tordrai dans les tourments de l'enfer ? » Je ne reposerai pas en paix, répondit Catherine, rappelée à un sentiment de faiblesse physique par les battements violents et inégaux de son cœur, battements que l'on pouvait voir et entendre dans l'excès de son agitation. Elle ne dit pas un mot de plus jusqu'à la fin de la crise. Alors elle reprit un ton plus doux. « Je ne vous souhaite pas de plus grands tourments que les miens, Heathcliff. Je désire seulement que nous ne nous séparions jamais. » Et si une de mes paroles vous revient plus tard pour vous désoler, songez que sous la terre, je ressens la même désolation, et pardonnez-moi pour l'amour de moi. Venez ici et remettez-vous à genoux. Vous ne m'avez jamais fait de mal dans votre vie. Mais si maintenant vous vous fâchez, cela sera pire à vous rappeler que mes dures paroles. Ne voulez-vous pas revenir de nouveau vous mettre ici? Venez. » Heathcliff s'avança vers le dos de son fauteuil et s'y appuya, mais sans laisser voir sa figure qui était livide d'émotion. Elle se retourna pour le regarder, mais lui, se détournant tout d'un coup, marcha vers la cheminée où il se tint sans rien dire, nous montrant le dos. Madame Linton le suivait d'un regard soupçonneux. Chaque mouvement éveillait en elle un nouveau sentiment. Après une pause prolongée, elle reprit, s'adressant à moi avec un ton de désappointement indigné. « Bon, vous voyez, Nelly, il ne voudrait pas se relâcher un moment pour m'empêcher de mourir. Voilà comment je suis aimée. Eh bien, n'importe, ceci n'est pas mon Heathcliff. Je continuerai à aimer le mien et à le prendre avec moi. Il est dans mon âme. » Et, ajouta-t-elle d'un air rêveur, la chose qui me tourmente le plus, c'est après tout cette sombre prison. Je suis fatiguée d'être enfermée ici. Il me tarde de m'échapper vers ce monde glorieux et d'y être toujours, d'y être réellement au lieu de le voir confusément à travers des larmes et de soupirer vers lui d'entre les murs d'un cœur malade. Nelly, vous pensez que vous êtes mieux et que vous êtes plus heureuse que moi, avec votre force et votre santé. Vous me plaignez, mais bientôt cela va changer. C'est moi qui vous plaindrai. Je serai incomparablement au-delà et au-dessus de vous tous. Je m'étonne qu'il ne soit pas là près de moi. » Et elle continua, s'adressant à elle-même. Oh, « Je pensais qu'il le désirait. « Heathcliff, cher homme, vous ne devriez pas être de mauvaise humeur à présent. Venez avec moi, Heathcliff. » Dans son empressement, elle se leva et s'appuya sur le bras du fauteuil. Alors il se retourna vers elle, et je vis qu'il avait l'air absolument désespéré. Ses yeux, larges et humides, finirent par se fixer obstinément sur elle, sa poitrine se soulevait convulsivement. Un instant, ils se tirent ainsi à distance, et puis de quelle façon ils se rejoignirent, je pus à peine le voir, mais Catherine fit un saut et il la saisit, et ils furent unis dans un embrassement dont je crus bien que ma maîtresse ne sortirait pas vivante. En effet, il me semblait qu'elle avait perdu tout sentiment. Il se jeta sur le siège le plus voisin, et comme je m'approchais précipitamment pour voir si elle ne s'était pas évanouie, il grinça des dents contre moi, écuma comme un chien enragé, et la serra contre lui avec une jalousie rapace. Il ne semblait plus être une créature de notre espèce, il ne comprenait pas ce que je lui disais, de sorte que je me tins là en silence, cruellement embarrassé. Un mouvement de Catherine me rassura un peu. Elle leva la main pour l'embrasser et pour rapprocher sa joue de la sienne. Lui, de son côté, la couvrait de caresses folles, lui disant « Vous m'apprenez maintenant combien cruelle et fausse vous avez été. Mais pourquoi m'avez-vous méprisé? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Cathy? Je n'ai pas un mot pour vous soulager et vous le méritez. Vous vous êtes tué vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer et appeler mes baisers et mes larmes. Ils vous brûleront, ils vous damneront. Vous m'aimiez. Alors, quel droit aviez-vous de m'abandonner? Quel droit, répondez-moi, pour le misérable caprice que vous avez ressenti envers Linton? Alors que ni la misère et la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan aurait pu vous infliger, ne vous aurait séparé, vous, de votre plein gré, vous l'avez fait. Ce n'est pas moi qui vous ai brisé votre cœur, c'est vous-même. Et c'est tant pis pour moi, si je suis fort. Ai-je besoin de vivre? Quelle espèce de vie me resta-t-il lorsque vous... Oh Dieu, aimeriez-vous à vivre avec votre âme dans la tombe? « laissez-moi seul, sanglota Catherine. Si j'ai eu des torts, c'est Dieu que je meurs. Cela suffit. Vous m'avez abandonné aussi, et je ne vous ai pas fait de reproche. Je vous pardonne, alors pardonnez-moi. Il est difficile de pardonner quand on voit ses yeux et que l'on tâte ses mains décharnées, répondit-il. « Embrassez-moi de nouveau et ne me laissez pas voir vos yeux. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait à moi. J'aime mon meurtrier, mais le vôtre, comment le puis-je ?» Ils se turent, leurs visages appuyés l'un sur l'autre et mouillés chacun des larmes de l'autre. Du moins, je suppose que tous deux pleuraient, car il me sembla que dans une occasion comme celle-là, Heathcliff lui-même pouvait pleurer. Pendant ce temps, je me sentais très mal à l'aise, car l'après-midi s'avançait, l'homme que j'avais envoyé au village était revenu de sa course, et je pouvais distinguer dans la vallée la foule qui déjà sortait de la chapelle de Jim Merton. Oh, « Le service est fini, » annonçai-je. « Mon maître sera ici dans une demi-heure. » Heathcliff grogna un juron et serra plus étroitement contre lui Catherine, qui restait immobile. Bientôt j'aperçus un groupe de domestiques avançant dans le sentier du côté de la cuisine. Monsieur Linton n'était pas loin derrière eux. Il ouvrit la porte lui-même et entra lentement, sans doute pour jouir le plus longtemps possible de l'aimable après-midi et de cette brise aussi douce qu'un vent d'été. « Le voici arrivé !» m'écriai-je. « Pour l'amour de Dieu, hâtez-vous de descendre. Vous ne rencontrerez personne sur le grand escalier. Hâtez-vous et restez parmi les arbres jusqu'à ce qu'il soit bien entré. » « Il faut que je parte, Cathy, » dit Heathcliff, cherchant à se détacher des bras de sa compagne. « Mais si je vis, je vous verrai encore une fois avant votre sommeil. Je ne m'éloignerai pas à 5 yards de votre fenêtre. »« Non, vous ne devez pas partir, » répondit-elle, le retenant aussi solidement que sa force le permettait. « Vous ne partirez pas, je vous le dis. » Pour une heure seulement, pas pour une minute. Mais il le faut, Linton va être ici dans un instant, persista le visiteur alarmé. Il s'était levé, il commençait à se délivrer violemment de ses mains, mais elle s'attacha plus fortement à lui. Il y avait dans sa figure une résolution folle. Non, cria-t-elle, ne partez pas, ne partez pas. « Non, s'écria-t-elle, oh, ne partez pas, ne partez pas, c'est la dernière fois. Edgar ne nous fera pas de mal, Heathcliff. Je mourrai, je mourrai. »« Oh, diable, le voilà !» cria Heathcliff, retombant sur son siège. « Silence, ma chérie, ne dis rien. Ne dis rien, Catherine, je vais rester. S'il pouvait me tuer ici, je mourrais avec une bénédiction sur mes lèvres. » Et les voilà embrassés de nouveau. J'entendis mon maître monter les escaliers. Une sueur froide parut à mon front. J'étais terrifié. « Mais voulez-vous donc écouter ces bavardages ? » dis-je passionnément. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais voulez-vous la perdre parce qu'elle n'a pas assez d'esprit pour céder elle-même ? Relevez-vous. Vous pouvez vous délivrer à l'instant. Ceci est l'action la plus diabolique que vous ayez jamais commise. » Nous sommes tous perdus, maître, maîtresse et servante. Je me tordais les mains et je pleurais. Et M. Linton hâtait le pas en entendant le bruit. Pourtant, au milieu de mon agitation, j'étais sincèrement heureuse d'observer que les bras de Catherine s'étaient relâchés, que sa tête pendait sur ses épaules. Oh, elle est évanouie ou morte, pensais-je. Oh, et c'est tant mieux. Mieux vaut qu'elle soit morte plutôt que d'être un fardeau et une cause de malheur pour tout le monde. Blanc d'étonnement et de rage, Edgar s'élança vers son hôte inattendu. Ce qu'il voulait faire, je ne puis le dire, mais l'autre arrêta du premier coup toute démonstration en plaçant dans ses bras la forme inanimée de Catherine. « Regardez ceci, dit-il. Et si vous n'êtes pas un démon, secourez-la d'abord, puis vous pourrez me parler. » Il entra dans le parloir et s'assit. M. Linton fit appel à moi, et avec une extrême difficulté, nous parvîmes à ranimer la jeune dame. Mais elle était tout égarée. Elle soupirait, gémissait, et ne reconnaissait personne. Edgar, dans son anxiété pour elle, oublia l'ami détesté. Et moi, à la première occasion, j'allais le supplier de partir, lui affirmant que Catherine allait mieux et que je lui ferais savoir dans la matinée comment elle avait passé la nuit. « Je ne refuse pas de sortir de la maison, » me répondit-il. « Mais je resterai dans le jardin, et vous, Nelly, n'oubliez pas de tenir votre parole demain. » Je serai là, sous ces mélèzes. Rappelez-vous votre promesse, ou bien je fais de nouveau une visite ici, que Linton y soit ou non. » À travers la porte entrouverte, il jeta un rapide coup d'œil dans la chambre, et s'étant assuré que ce que je disais était vrai, il délivra la maison de sa fatale présence. C'est ce jour-là, vers minuit, que naquit la Catherine que vous avez vue à Au-dehors le vent. Elle est venue au monde à 7 mois, toute chétive, et 2 heures après, la mère est morte, sans avoir repris assez conscience d'elle-même pour regretter Heathcliff ou pour reconnaître Edgar. Un grand supplément de chagrin, je crois, était pour lui de se voir laissé sans un héritier. Je pensais à cela avec grand regret, tandis que je regardais la petite orpheline. Et je reprochais mentalement au vieux Linton d'avoir laissé sa fortune à sa petite fille et non à son fils. Quel enfant mal accueilli c'était, la pauvre créature! Elle aurait pu crier jusqu'à en mourir sans que personne y prît garde pendant ses premières heures de sa vie. Plus tard, il est vrai, nous rachetâmes cette négligence, mais les débuts de sa vie ont été aussi mornes et sans amitié que le sera probablement sa fin. Le matin suivant, pendant qu'il faisait au dehors brillant et gai, le soleil entra doucement à travers les persiennes de la chambre silencieuse et éclaira le lit d'une tendre lumière. Edgar Linton était là, la tête posée sur l'oreiller, les yeux fermés. Ses traits, jeunes et beaux, étaient presque aussi morts que ceux de la forme étendue près de lui. Mais son immobilité à lui était celle de l'épuisement après l'angoisse, et celle de Catherine exprimait une paix parfaite. Son front était sans rides, ses paupières fermées, ses lèvres portaient l'expression d'un sourire. Un ange ne pouvait pas être plus beau. Et je prenais ma part du calme infini où je la voyais. Jamais mon esprit n'avait été dans une disposition plus sainte que pendant que je considérais cette tranquille image du repos divin. Je répétais instinctivement les paroles qu'elle avait dites quelques heures auparavant, infiniment au-delà et au-dessus de nous tous, qu'il soit encore sur la terre ou qu'il soit dans le ciel, son esprit habite maintenant avec Dieu. Je ne sais pas si c'est un trait qui m'est particulier, mais je suis presque toujours heureuse quand je veille dans la chambre d'un mort, pourvu que je n'ai pas à côté de moi quelqu'un qui se lamente et se désespère. J'y vois un repos que ni la terre ni l'enfer ne peuvent briser, et je sens une certitude d'un monde infini et sans ombre, où la vie est éternelle en durée, où l'amour est complet et la joie parfaite. Je vis à cette occasion comme il y avait d'égoïsme même dans un amour comme celui de M. Linton, cet amour qui le faisait se désespérer si vivement de cette délivrance bénie de Catherine. À coup sûr, si l'on songeait à l'existence agitée et impatiente qu'elle avait menée, on pouvait se demander si elle avait mérité pour finir un refuge de paix. On pouvait en douter dans les moments de la froide réflexion, mais non pas là, en présence de son corps. Ce corps affirmait son entière tranquillité et semblait attester qu'un repos pareil était échu à l'âme qu'il avait habitée. Le maître semblait dormir. Peu de temps après le lever du soleil, je quittai la chambre et sortis à l'air pur et rafraîchissant. Les domestiques pensèrent que je voulais secouer l'engourdissement de ma veille prolongée. En réalité, je voulais surtout voir M. Heathcliff. S'il était resté toute la nuit parmi les mélèzes, il n'avait pu rien entendre du bruit qui s'était fait à la grange, à moins peut-être qu'il n'ait perçu le galop du messager envoyé à Gimmerton. Et s'il s'était rapproché de la maison, le mouvement des lumières, le bruit des portes ouvertes et refermées devaient l'avoir averti que tout n'était pas en ordre à l'intérieur. Je désirais en même temps, craignais de le rencontrer. Je sentais qu'il fallait dire la terrible nouvelle, et j'avais hâte d'en avoir fini, mais comment le faire, je ne le savais pas. Il était là, appuyé contre un vieux frêne, son chapeau à terre et ses cheveux tout humides de la rosée qui s'était amassé sur les branches pleines de bourgeons et qui tombait à petits coups autour de lui. Il avait dû rester longtemps debout dans cette position, car je vis un couple de merles qui passaient et repassaient à peine à 3 pieds de lui, occupés à faire leur nid, et ne faisant pas plus attention à sa présence que s'il était une bûche. À mon approche, ils s'envolèrent, et lui leva les yeux vers moi. « Ah, elle est morte !» me dit-il. « Vous n'avez pas attendu pour la prendre. Allez, enlevez votre mouchoir. Ne pleurnichez pas devant moi. Que le diable vous emporte tout, cela n'a pas besoin de vos larmes. » Je pleurais autant pour lui que pour elle. Il nous arrive de prendre en pitié des créatures qui ne connaissent la pitié ni pour eux ni pour d'autres. Tout de suite, en apercevant son visage, j'avais compris qu'il connaissait la catastrophe. Et comme ses lèvres remuaient et que ses yeux étaient baissés, l'idée folle m'avait prise que son cœur s'était humilié et qu'il priait. « Oui, elle est morte, » répondis-je, étouffant mes sanglots et séchant mes joues. « Elle est, j'espère, aller au ciel, où chacun de nous peut aller la rejoindre si nous y faisons attention autant qu'il le faut, et si nous abandonnons les voies mauvaises pour suivre le bien. » Est-ce donc qu'elle a pris les mesures qu'il convenait, elle aussi ? Demanda Heathcliff, essayant de railler. Elle est morte comme une sainte. Allons, donnez-moi la véritable histoire de la chose. Comment est-ce que... Il essaya de prononcer le nom, mais ne put y parvenir. Et comprimant ses lèvres, il eut un combat silencieux avec son agonie intérieure, tout en continuant à défier ma sympathie par un regard immobile et féroce. « Comment est-elle morte ? » reprit-il enfin, obligé, malgré son endurcissement, de chercher un appui derrière lui, car après l'effort, il tremblait jusqu'au bout des doigts. « Pauvre malheureux, pensais-je, vous avez un cœur et des nerfs, tout comme les autres hommes, mais pourquoi ? Prenez-vous ce soin à les cacher. Votre orgueil ne parviendra pas à aveugler Dieu. Oh, elle est morte aussi tranquillement qu'un agneau, répondis-je tout haut. Elle a poussé un soupir, puis s'est redressée comme un enfant qui se réveille et s'est remise à dormir. 5 minutes après, j'ai senti un petit battement de son cœur et c'était fini. « Et a-t-elle fait mention de moi ?» demanda-t-il, mais en hésitant, et comme s'il craignait que ma réponse à cette question ne lui révélât des détails qu'il ne pourrait pas supporter d'apprendre. « Elle n'a pas une seule fois repris ses sens, et n'a reconnu personne depuis l'instant où vous l'avez quittée. Maintenant, elle repose avec un doux sourire sur ses traits, et ses dernières idées ont erré vers les anciens jours de bonheur. Sa vie s'en est allée dans un rêve charmant, puisse-t-elle s'éveiller aussi agréablement dans l'autre monde. Puisse-t-elle s'éveiller dans les tourments ? S'écria-t-il avec une véhémence terrible, frappant du pied et tombé dans un paroxysme soudain d'irrésistible passion. Et quoi, elle est une menteuse jusqu'au bout. Où est-elle ? Où est-elle ? Pas ici, pas dans le ciel, pas disparue. Où ? Oh ! Vous m'avez dit que vous ne vous souciez pas de mes souffrances. Et moi, je fais une prière. Je la répète jusqu'à ce que ma langue s'engourdisse. Catherine Herschaud, puissiez-vous ne pas trouver le repos aussi longtemps que je serai en vie ? Vous m'avez dit que je vous ai tué, hantez-moi alors. Ce que l'on a tué hante leurs meurtriers, je crois. Je sais que les fantômes de mort ont erré sur la terre. Soyez toujours avec moi, prenez n'importe quelle forme, mais rendez-moi fou. Seulement ne me laissez pas dans cet abîme où je ne peux pas vous trouver. Oh Dieu, c'est impossible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. » Il frappa sa tête contre le tronc noueux de l'arbre, et relevant ses yeux, il hurla, non comme un homme, mais comme une bête sauvage qu'on conduit à la mort. Je remarquai les taches de sang sur l'écorce de l'arbre, et je vis que sa main et son front emportaient aussi. Très probablement, la scène que je venais de voir était une répétition d'autres qui avaient eu lieu pendant la nuit. Je me trouvais répugné plutôt qu'apidoyé. Pourtant, il m'en coûtait de le quitter ainsi. Mais dans le moment où il reprit assez conscience de lui-même pour s'apercevoir que je le voyais, il me cria de m'éloigner et j'obéis. Je compris qu'il n'était pas de mon pouvoir de le calmer ou de le consoler. Les funérailles de Madame Linton furent fixées au vendredi qui suivit sa mort. Jusque-là, son cercueil resta découvert dans le grand salon, jonché de fleurs et de feuilles. C'est là que Linton passa ses jours et ses nuits, veillant la morte sans prendre aucun repos. Et, circonstance que j'étais seul à connaître, Heathcliff lui aussi les passa sans dormir, caché dans le jardin. Je n'eus aucune communication avec lui, mais je me rendais bien compte qu'il ferait tout son possible pour entrer. Et le soir du mardi, pendant que mon maître épuisé s'était vu forcé de se retirer pour quelques heures, j'ouvris l'une des fenêtres, ému de sa persévérance, et voulant lui donner une chance d'adresser un dernier adieu à l'image pâlie de son idole. Il ne manqua pas de profiter de cette occasion, mais il le fit très brièvement et avec tant de prudence que nul bruit ne vint trahir son passage. En vérité, moi-même ne m'en serais pas aperçu si je n'avais trouvé la draperie dérangée autour du visage de la morte et si je n'avais ramassé sur le plancher une boucle de cheveux blonds attachée par un fil d'argent. Cheveux qui provenaient d'un médaillon suspendu au cou de Catherine. Heathcliff avait ouvert le médaillon et jeté les cheveux de Lyndon qui étaient contenus, les remplaçant par une boucle brune de ses cheveux à lui. J'enroulai ensemble les deux boucles et les refermai toutes deux. Monsieur Earnshaw fut naturellement invité aux obsèques de sa sœur. Il n'envoya pas d'excuses, mais ne vint pas, de sorte que, à l'exception de son mari, le cortège funèbre fut uniquement composé de fermiers et de domestiques. Isla n'avait pas été invitée. À la grande surprise des gens du village, Catherine ne fut enterrée ni dans la chapelle de famille de Linton, ni auprès des tombes de sa famille à elle. Son tombeau fut creusé sur un tertre vert dans un coin du cimetière, un endroit où le mur est si bas que la bruyère et les rêles de la lande ont fini par l'envahir et que la poussière de la tombe la cache presque en entier. Son mari repose maintenant au même endroit. Ils n'ont l'un et l'autre qu'une simple pierre debout et à leurs pieds une plaque grise pour marquer la place de leur corps. Ce même vendredi marqua pour tout un mois la fin des beaux jours. Dans la soirée, le temps changea. Le vent souffla du sud au nord-est, apportant d'abord la pluie, puis le grésil et la neige. Le lendemain matin, personne ne se serait douté qu'il y avait eu 3 semaines de bel été. Les primes verts, les safrans étaient cachés sous la neige, les alouettes ne chantaient plus, et les jeunes feuilles des arbres étaient battues et noircies. Et combien lugubre, froide et déplaisante se trama cette journée. Mon maître restait dans sa chambre. Je m'étais installé dans le parloir solitaire que j'avais converti en nursery, et je me tenais là, assise, avec une petite poupée vivante et gémissante sur mes genoux, la berçant de temps à autre, ou bien regardant les flocons qui continuaient à tomber et qui bloquaient la fenêtre sans rideau. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra tout essoufflé et qui riait. Ma colère, pour un instant, fut plus grande que mon étonnement. Je supposais que c'était l'une des servantes. Je lui criai de cesser de rire. Finissez, mais finissez donc. Comment avez-vous le courage de montrer votre gaieté ici? Mais que dirait M. Linton s'il vous entendait? Excusez-moi, me répondit une voix familière, mais je sais qu'Edgar est dans son lit, et je ne peux pas me retenir. Là-dessus, mon interlocutrice s'avança vers le feu, toute tremblante, et portant la main à son côté. J'ai couru tout le long du chemin, depuis les hauts de Hurlevent, poursuivit-elle après une pause. Impossible de compter le nombre des chutes que j'ai faites. Oh, j'ai mal partout. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai la chose dès que j'en aurai la force. Mais ayez tout de suite l'obligeance de descendre et de commander une voiture pour me conduire à Gimmerton et de dire à une servante de prendre quelques vêtements dans ma garde-robe. La visiteuse était Madame Heathcliff. Son apparence n'avait rien qui expliquât son rire. Ses cheveux ruisselaient sur ses épaules dégouttant de neige et d'eau. Elle portait son costume de jeune fille qui convenait mieux à son âge qu'à sa position. Un petit manteau avec les manches courtes, et elle avait la tête et le cou nus. Le manteau était de soie fine et la pluie l'avait collé à son corps. Ses pieds avaient pour les protéger des petites pantoufles très minces. Joignez à tout cela une profonde entaille sous l'une des oreilles, entaille que le froid seul empêchait de saigner abondamment, une figure pâle, toute pleine de traces de coups, et un corps à peine en état de se porter, et vous comprendrez que ma première frayeur ne fut pas diminuée quand j'eus le loisir de l'examiner. « Ma chère jeune dame, m'écriai-je, je ne sortirai pas d'ici, et je n'entendrai rien avant que vous ayez enlevé chacun de vos vêtements et mis à leur place des effets secs. Et comme certainement vous ne pouvez pas aller cette nuit à Gimmerton, il est inutile de commander la voiture. « Mais il faut absolument que j'y aille, dit-elle, à pied ou à cheval. Mais je consens volontiers à m'habiller plus décemment. Ah, voyez comme cette neige me descend maintenant dans le cou. » Elle insista pour que je fasse comme elle voulait, et c'est seulement après que le cocher eut reçu l'ordre de se tenir prêt et une servante d'empaqueter quelques effets indispensables, c'est alors seulement qu'elle m'autorisa à panser sa plaie et à l'aider à se changer. « Et maintenant, Hélène, me dit-elle, lorsque j'eus fini et qu'elle se trouva assise près du feu avec une tasse de thé devant elle, asseyez-vous en face de moi et mettez à l'écart le bébé de la pauvre Catherine, je ne veux pas le voir. Ne croyez pas que je me soucie pas de Catherine, parce que je me suis comporté si follement quand je suis entré. J'ai pleuré aussi, et amèrement. Personne n'a eu autant que moi de raison pour pleurer. Nous nous sommes séparés fâchés, vous vous rappelez, et je ne puis me le pardonner, mais il m'était impossible de sympathiser même sur ce point avec lui, cette bête brute. Oh, donnez-moi le tisonnier. Voici la dernière chose de lui que j'ai sur moi. » Elle fit glisser la bague d'or de son doigt et la jeta sur le plancher. « Je veux l'écraser, » poursuivit-elle en la frappant avec un dépit enfantin, « et puis je veux la brûler. » Et elle prit l'objet tout tordu et le jeta dans les charbons. « Voilà, il pourra en acheter une autre s'il me rattrape de nouveau. Il serait capable de venir me chercher ici pour exaspérer Edgar. Je n'ose pas rester, de crainte que cette idée ne passe dans sa tête maudite. Et puis Edgar n'a pas été bon pour moi, n'est-ce pas? Je ne veux pas venir implorer son assistance, ni lui apporter encore de nouveaux ennuis. La nécessité seule m'a forcé à chercher un abri ici, Et encore, s'il n'avait pas su que je ne risquais pas de le rencontrer, je me serais arrêté à la cuisine, je me serais lavé la figure, je me serais chauffé, je vous aurais fait dire de m'apporter ce dont j'avais besoin, et je serais parti n'importe où, ailleurs, hors de l'atteinte de ce monstre, de ce démon incarné. Oh, il était dans une telle rage. Oh, s'il m'avait attrapé. C'est bien dommage que Earnshaw ne soit pas son égal en force. Je ne serais pas sauvé avant de l'avoir vu démolir, Sinley avait été capable de le faire. Allons, Miss, interrompis-je, ne parlez pas si vite. Vous allez défaire le mouchoir mouillé que j'ai mis autour de votre figure, et l'entaille va saigner de nouveau. Buvez votre thé, prenez haleine, et cessez de rire. Le rire est triste mort de propos sous ce toit, et aussi dans votre condition. C'est vrai, reprit-elle. Écoutez donc cet enfant, il ne cesse pas de gémir. Éloignez-le de moi pendant une heure, je ne puis rester ici plus longtemps. Je sonnai et remis l'enfant à une servante. Puis je lui demandai ce qu'il avait porté à s'échapper des hauts de Hurlevent dans de telles conditions et où elle avait l'intention d'aller, puisqu'elle refusait de rester avec moi. Je voudrais rester, me répondit-elle, pour consoler Edgar et pour prendre soin de l'enfant, et aussi parce que la grange est ma maison en droit. Mais je vous dis qu'il ne m'y laisserait pas. Croyez-vous qu'il supporterait de me voir devenir grasse et gaie, et de songer que nous sommes tranquilles ici, sans prendre aussitôt la résolution d'empoisonner notre bonheur? Or, j'ai maintenant la satisfaction d'être sûr qu'il me déteste au point qu'il souffre sérieusement à me voir ou à m'entendre. L'aversion que je lui inspire est assez forte pour que je sois sûr qu'il ne me poursuivra pas à travers l'Angleterre si je parviens à m'échapper. Il faut donc que je m'enfuie bien loin d'ici. Je suis revenu de mon premier désir d'être tué par lui. Je voudrais plutôt qu'il se tuât lui-même. Il a fait tout ce qu'il fallait pour éteindre mon amour, et ainsi je suis à mon aise. Je peux encore me rappeler combien je l'ai aimé, et je peux m'imaginer que je l'aimerais encore si... Ah, mais non, non. Si même il m'avait adoré, sa nature diabolique se serait montrée en quelque façon. Il faut que Catherine ait eu un goût bien pervers pour l'estimer, le connaissant si bien. Oh, le monstre! S'il pouvait être effacé de la création aussi bien que de mon souvenir. « Taisez-vous, dis-je, il est cependant une créature humaine. Soyez plus charitable. Il y a encore des hommes plus méchants. Il n'est pas une créature humaine et n'a aucun droit à ma charité. Je lui ai donné mon cœur, il l'a pris et blessé à mort, puis me l'a rejeté. C'est avec le cœur que l'on sent, Hélène. Et puisqu'il a détruit mon cœur, je n'ai plus le pouvoir de rien sentir pour lui. Et je ne le voudrais même pas, quand même il en hurlerait à son jour de mort, et quand même il pleurerait des larmes de sang pour sa Catherine. Non, certes, je ne le voudrais pas. » Et ici, Isabella se mit à pleurer, mais aussitôt essuyant ses larmes, elle reprit. « Vous m'avez demandé ce qui m'a enfin obligé à fuir. Bien, c'est que je suis parvenu à exciter sa fureur à un degré plus grand encore que celui de sa méchanceté. Il s'est excité jusqu'à oublier la prudence diabolique dont il se vantait, et il a procédé à une violence meurtrière. Le plaisir que j'ai éprouvé à me voir capable de l'exaspérer a réveillé enfin mon instinct de conservation, et si jamais je retombe entre ses mains, je lui ménage une vengeance à sa taille. Hier, comme vous savez, Monsieur Earnshaw devait venir à l'enterrement. Dans cette action, Il se tint relativement sobre, mais la conséquence en fut que ce changement d'habitude lui donna des humeurs noires, et qu'au lieu d'aller à l'église, il s'assit près du feu et se mit à avaler des potées de gin et de brandy. Heathcliff, je frissonne rien qu'à le nommer, avait été un étranger pour la maison depuis dimanche jusqu'à ce matin. Si ce sont les anges qui l'ont souri ou son parent de l'enfer, je ne puis le dire, mais il y a près d'une semaine qu'il n'a pas mangé avec nous. Il revenait parfois le soir et montait dans sa chambre où il s'enfermait au verrou, comme si quelqu'un rêvait de désirer sa compagnie. Et là, il faisait on ne sait quelle prière, adressée sans doute au démon, puisqu'à ce que sa voix s'enrouait dans son gosier. Alors il se relevait et descendait de nouveau tout droit vers la grange. Je m'étonne qu'Edgar n'ait pas envoyé chercher un constable et ne l'ait pas fait arrêter. Pour moi, si chagriné que je fusse au sujet de Catherine, il m'était impossible de ne pas regarder cette période de délivrance de mon oppression comme des jours de fête. J'avais recouvré assez de force d'esprit pour écouter sans pleurer les éternelles leçons de Joseph et pour me mouvoir à travers la maison avec plus de liberté. Ce Joseph et le petit Harleton sont les plus détestables compagnons qu'il y ait au monde. J'aimais mieux être assise avec Hindley à écouter ses terribles discours qu'avec le petit maître et son odieux précepteur, le sinistre vieillard. Quand Heathcliff était dans la maison, j'étais souvent forcée de rechercher leur société dans la cuisine ou de mourir de froid parmi les chambres humides et inhabitées. Mais quand il n'était pas là, comme c'était le cas cette semaine, j'installais une table et une chaise à un coin du foyer dans la grande chambre, sans nul souci de ce que faisait M. Earnshaw, qui d'ailleurs n'intervenait jamais dans mes arrangements. Il est maintenant plus tranquille qu'il n'avait l'habitude de l'être, pourvu seulement qu'on ne le provoque pas, plus abattu et moins furieux. Joseph affirme que c'est un homme changé, que le Seigneur a touché son cœur et qu'il est sauvé comme par le feu. Je vais demander à chercher à découvrir des signes de ce changement favorable, mais ce n'est pas mon affaire. Hier soir, j'étais assise dans mon coin à lire quelques vieux livres et je restais assis jusque vers minuit. Il me semblait si affreux de remonter me coucher pendant que cette neige sauvage soufflait au dehors et que mes pensées me ramenaient sans cesse vers le cimetière et la tombe nouvellement creusée. J'osais à peine lever les yeux de la page que je lisais, sûr que j'étais d'y voir aussitôt apparaître cette mélancolique scène. Hindley était assis en face de moi, la tête appuyée sur sa main. Peut-être méditait-il sur le même sujet. Il avait cessé de boire avec tant d'excès, et pendant 2 ou 3 heures, il n'eut ni un mouvement ni une parole. Il n'y avait pas d'autre bruit dans la maison que le hurlement du vent contre les fenêtres, le craquement des charbons dans le feu et le cliquetis de l'éteignoir avec lequel, de temps à autre, je mouchais la chandelle. Harleton et Joseph devaient probablement dormir dans leur lit. Enfin, en un mot, ils faisaient très triste, et tout en lisant, je soupirais, car il me semblait que toute la joie s'était évanouie du monde pour n'y plus jamais rentrer. Le cruel silence fut enfin interrompu par le bruit du loquet de la cuisine. Heathcliff était revenu de sa veillée plus tôt que de coutume, à cause sans doute de l'orage soudain. La porte de la cuisine avait été verrouillée en dedans et nous l'entendîmes faire le tour pour rentrer par l'autre porte. Je me levai et j'imagine que mes traits portaient clairement l'expression de mes sentiments, car mon compagnon, qui avait tenu ses yeux fixés sur la porte, se retourna pour me regarder. « Je vais le retenir dehors 5 minutes, s'écria-t-il, vous y consentez ? Bon, si c'est pour moi, vous pouvez le laisser dehors toute la nuit, répondis-je. Mettez la clé dans la serrure et tirez le verrou. Earnshaw le fit avant que son hôte fût arrivé devant la porte, puis il revint vers moi, installa son fauteuil de l'autre côté de ma table et s'y appuya, cherchant dans mes yeux une sympathie pour la haine brûlante qui étincelait dans les siens. Comme il avait à la fois le regard et les sentiments d'un meurtrier, il ne put découvrir en moi la sympathie qu'il cherchait, mais il en vit assez pour l'encourager à parler. « Vous et moi, dit-il, nous avons un grand compte à régler avec cet homme-là. Si nous n'étions pas des lâches, nous pourrions nous arranger pour l'acquitter. Êtes-vous aussi douce que votre frère ? Voulez-vous endurer jusqu'au bout, sans essayer une seule fois de rendre ce qu'on vous fait ? Oh, je suis déjà lasse d'endurer, répondis-je. Et j'accueillerais avec joie une façon de rendre qui ne retomberait pas sur moi-même. Mais la ruse et la violence sont des lances à deux pointes. Elles blessent ceux qui y ont recours, plus encore que leurs ennemis. Mais la ruse et la violence sont un juste retour pour la ruse et la violence, cria Hindley. Madame Heathcliff, je ne vous demande de rien faire que de rester tranquille et d'être muette. Dites-moi maintenant, le pouvez-vous ? Je suis sûr que vous auriez autant de plaisir que moi à voir finir l'existence de ce démon. Il sera votre mort si vous le dominez, et il sera ma ruine. Que le diable emporte le mauvais vilain. Il frappe à la porte comme s'il était déjà le maître ici. Promettez-moi de vous taire, et avant 3 minutes, vous êtes délivré. Il prit sur sa poitrine l'objet dont je vous ai parlé dans ma lettre et se prépara à éteindre la chandelle, mais je l'écartai de lui et je saisis son bras. « Je ne me tairai pas, dis-je. Vous ne devez pas le toucher. Laissez la porte fermée et restez tranquille. Non, j'ai formé ma résolution et par Dieu, je l'exécuterai !» cria cet être désespéré. Je vous rendrai ce service en dépit de vous-même, et je ferai justice à Hareton. Et vous ne devez pas vous troubler la tête pour me protéger. Catherine est morte, personne au monde ne me regrettera, et on aura honte si je me coupe la gorge en cet instant, et il est temps de faire une fin. Je ne pouvais songer à lutter, non plus qu'à raisonner avec lui. Autant aurait valu lutter avec un ours ou raisonner avec un fou. La seule ressource qui me restait fut de courir vers une fenêtre et de prévenir la victime projetée du sort qui l'attendait. Vous feriez mieux de chercher abri quelque autre part cette nuit, m'écriai-je d'un ton un peu triomphant. Monsieur Earnshaw est résolu à vous tuer si vous persistez à vouloir entrer. « Vous feriez mieux d'ouvrir la porte, vous, » répondit-il, m'appelant d'une expression élégante que vous me dispenserez de répéter. « Oh, je ne me mêlerai pas de l'affaire, » répondis-je. « Entrez et soyez tués, si cela vous plaît. Moi, j'ai fait mon devoir. » Là-dessus, je refermai la fenêtre et revins tranquillement prendre ma place près du feu. Earnshaw jura furieusement contre moi, m'affirmant que j'aimais encore le vilain et m'appelant de toutes sortes de noms pour me faire honte de la bassesse d'esprit que je montrais. Et moi, dans le secret de mon cœur, je songeais quelle bénédiction ce serait pour lui si Heathcliff pouvait le mettre hors de cette vie de misère, et quelle bénédiction ce serait pour moi s'il envoyait Heathcliff vers le séjour qui lui revient de droit. Pendant que je nourrissais ces réflexions, la croisée qui était derrière moi fut jetée sur le sol par un coup de Heathcliff dont je vis paraître dans l'espace vide la noire figure. Les grilles de la fenêtre étaient trop rapprochées pour lui permettre de passer l'épaule, et je souriais, me croyant en sûreté. Ses cheveux et ses vêtements étaient blancs de neige, et ses dents aiguës de cannibale, aiguisées encore par le froid et la colère, brillaient dans l'obscurité. « Isabella, laissez-moi entrer ou bien vous vous en repentirez » hurla-t-il. « Je ne puis pas commettre un meurtre, » répondis-je. « Monsieur Hinley se tient en sentinelle avec un couteau et un pistolet chargé. « Laissez-moi entrer par la porte de la cuisine. » « Hinley sera avant moi, » répondis-je. « Et puis, quel pauvre amour est le vôtre, qui ne peut pas supporter une averse de neige. Aussi longtemps qu'a brillé la lune de l'été, vous nous avez laissés en paix dans nos lits. Mais dès le premier souffle du vent d'hiver, il faut déjà que vous abritiez. Heathcliff, si j'étais de vous, j'irais m'étendre sur le tombeau de Catherine, et je m'y laisserais mourir comme un chien fidèle. » Le monde à présent ne vaut sûrement pas la peine que vous y viviez, n'est-ce pas? Vous m'avez clairement persuadé que Catherine était l'unique joie de votre vie. Je ne puis imaginer comment vous avez l'idée de lui survivre. Il est là, n'est-ce pas? Cria Hinley, courant à la fenêtre. Si je puis passer mon arme, je vais l'attraper. J'ai peur, Hélène, que vous me trouviez méchante, mais vous ne savez pas tout. Donc, ne me jugez pas. Pour rien au monde, je n'aurais prêté la main à un attentat sur sa vie. Mais de désirer qu'il fût mort, je ne pouvais m'en empêcher. Oh, si fus-je affreusement désappointé et terrifié des conséquences de mon provocant discours lorsque je vis Heathcliff se jeter sur l'arme de Earnshaw et la lui arracher des mains. Le pistolet partit, et le couteau qui y était attaché s'enfonça dans le poing même d'Earnshaw. Heathcliff l'en retira par force, coupant la chair sur son passage et le mit tout sanglant dans sa poche. Alors il prit une pierre, en frappa la grille qui séparait les deux croisées et sauta dans la maison. Son adversaire était tombé par terre, évanoui sous la douleur excessive et le flot de sang qui coulait d'une artère. Le ruffian le foula aux pieds et frappa à plusieurs reprises sa tête contre les dalles, me retenant d'une main pour m'empêcher d'appeler Joseph. Par une force surnaturelle d'empire sur soi, il s'abstint d'achever la victime, et quand il fut essoufflé, il s'arrêta, traîna sur le banc de bois le corps qui paraissait inanimé. Puis il déchira la manche de la veste de Earnshaw et lia la blessure avec une rudesse brutale, ne cessant pas de jurer. Me sentant libre, je courus aussitôt chercher le vieux domestique qui finit par comprendre mon hâtif récit et se précipita au bas de l'escalier. « Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ? » répétait-il. « Il y a ceci, » donna Heathcliff. « Que votre maître est fou et que s'il vit encore un mois de plus, je l'enverrai dans un asile. »« Et si vous avez commis le meurtre sur lui ?» s'écria Joseph, levant ses mains et ses yeux en signe d'horreur. « Si jamais j'ai vu un spectacle comme celui-ci, puisse le Seigneur... » Heathcliff le poussa et le fit tomber à genoux au milieu du sang, qui lui ordonna d'essuyer. Mais lui, au lieu de faire rien de pareil, il joignit ses mains et commença une prière dont les phrases bizarres me firent rire. J'étais dans une condition d'esprit à n'être choqué de rien. J'étais aussi désespéré, aussi indifférente que sont, enfin ce que l'on dit, les malfaiteurs au pied de la potence. « Ah ! Je vous avais oublié, » me dit mon tyran. C'est vous qui allez faire cela. Allons à terre. Et vous conspirez avec lui contre moi, n'est-ce pas, vipère? Ah, voilà de l'ouvrage pour vous. Il me secoua jusqu'à faire craquer mes dents et me jeta à côté de Joseph qui, ayant terminé à la hâte ses prières, se leva, jurant qu'il allait partir tout de suite pour la grange. M. Linton était un magistrat, et quand bien même il aurait perdu 50 femmes, il ne pouvait manquer de venir faire une enquête. Joseph paraissait si obstiné dans sa résolution que Heathcliff jugea utile d'obtenir de mes lèvres le récit de ce qui s'était passé. Il se tint sur moi, me posant, avec un regard plein de malveillance, des questions auxquelles je répondis à contre-cœur. Il fallut beaucoup de peine pour persuader au vieux Joseph que Heathcliff n'était pas l'agresseur. Et comme M. Earnshaw donna bientôt à entendre qu'il était encore vivant, Joseph s'empressa de lui administrer une dose de brandy qui ne tarda pas à rendre au blessé le mouvement et la conscience. Heathcliff, ayant constaté que son adversaire ne se doutait pas du traitement qu'il avait reçu pendant son évanouissement, se contenta de lui déclarer qu'il avait été ivre jusqu'au délire. Il lui dit qu'il n'attacherait pas d'autre importance à son atroce conduite, mais l'engagea à aller se coucher. À ma grande joie, lui-même nous quitta après nous avoir donné ce judicieux conseil, et Hindley s'étendit sur la pierre du foyer. Je rentrai moi-même dans ma chambre, m'étonnant d'avoir pu échapper à si peu de frais. Ce matin, en descendant environ une demi-heure avant midi, je trouvai M. Earnshaw assis auprès du feu, malade à mourir, tandis que son mauvais génie, presque aussi décharné et minable, s'appuyait contre la cheminée. Ni l'un ni l'autre ne paraissait avoir envie de manger, de sorte que, après avoir attendu que tout fût froid sur la table, je commençai seul. Rien ne m'empêcha de manger à mon aise, et de temps à autre, en apercevant mes compagnons silencieux, j'éprouvais un certain sentiment de satisfaction et de supériorité à découvrir en moi le calme d'une conscience tranquille. Quand j'eus fini, je pris la liberté tout à fait exceptionnelle de me rapprocher du feu, de faire le tour du siège d'Earnshaw et de m'agenouiller dans un coin à côté de lui. Heathcliff ne s'inquiéta pas de mes mouvements, et je pus le considérer aussi librement que si son corps avait été changé en pierre. Son front, qui m'était autrefois apparu si viril et que je trouve maintenant si diabolique, était voilé d'un nuage lourd. Ses yeux noirs étaient presque éteints par l'insomnie et peut-être aussi par les larmes. Ses lèvres avaient perdu leur ricanement féroce et étaient marquées d'une expression d'indicible tristesse. S'il s'était agi de tout autre que de lui, je me serais couvert la figure en présence d'une telle douleur. Mais dans son cas, j'en étais heureuse. Et pour ignoble que cela paraisse d'insulter un ennemi malheureux, je ne pouvais manquer la chance de le piquer. Sa faiblesse était le seul moment où il m'était permis de goûter le plaisir de rendre le mal pour le mal. Hindley voulut avoir de l'eau. Je lui en tendis un verre et lui demandai comment il se trouvait. « Pas si mal que je le voudrais, répondit-il, mais sans parler de mon bras, chaque pouce de mon corps est aussi malade que si j'avais lutté avec une légion de diablotins. » « Oui, cela n'a rien d'étonnant, » fis-je alors. « Catherine aimait à dire qu'elle se tenait entre vous et la douleur corporelle et qu'il y avait certaines personnes qui éviteraient de vous blesser par crainte de l'offenser. Il est heureux que les morts ne se relèvent pas de leur tombeau. Sans quoi, la nuit dernière, elle aurait assisté à une scène bien répugnante. N'y êtes-vous pas blessé et brisé partout, sur la poitrine et aux épaules ? « Bon, puis dire, répondit-il, mais que prétendez-vous ? A-t-il osé me frapper quand j'étais à terre ? Mais il a marché sur vous, il vous a battu, il vous a secoué contre les dalles, répondis-je tout bas. Et sa bouche était impatiente de vous déchirer avec ses dents, et cela parce qu'il n'est homme qu'à demi. et pour le reste démons. Monsieur Holmshaw se prit comme moi à considérer notre ennemi commun, qui, absorbé dans son angoisse, semblait insensible à tout autour de lui. « Oh, si seulement Dieu voulait me donner la force de l'étrangler dans ma dernière agonie, c'est avec joie que j'irais en enfer !» grommelait le misérable Hindley, faisant des efforts pour se relever dans son impatience et retombant désespéré avec la certitude de son infériorité. « Non, il suffit qu'il ait tué l'un de vous, » fis-je, observé très haut. « À la grange, chacun sait que votre sœur vivrait encore sans M. Heathcliff. Après tout, il vaut encore mieux être haï qu'aimé par lui. Quand je me rappelle combien nous étions heureux, combien Catherine était heureuse avant son retour, je me sens obligé à maudire ce jour fatal. » Très probablement, Heathcliff fit plus d'attention à la vérité de ce que je venais de dire qu'à la personne qui l'avait dit. Son attention fut excitée, car ses yeux se remplirent de larmes, et il tira de sa poitrine de profonds soupirs. Je le regardais en face avec un rire de dédain. Ses yeux, ses deux fenêtres d'entrée, brillèrent un moment de mon côté, mais avec quelque chose de si noyé et de si amorti que je n'eus pas peur de me risquer un nouveau rire. « Allez-vous-en dans votre chambre et éloignez-vous de ma vue, » dit Heathcliff. C'est du moins ce que je devinais qu'il dit, car ses paroles étaient à peine compréhensibles. « Je vous demande pardon, » repris-je, « mais j'aimais Catherine, moi aussi. Et son frère réclame des secours que, pour l'amour d'elle, je veux lui donner. Maintenant qu'elle est morte, je la revois en Hindley. Hindley a exactement les mêmes yeux et... « Allez-vous-en, misérable idiote, avant que je ne vous batte à mort » cria-t-il en faisant un mouvement. « Mais alors, » poursuivis-je, me tenant prête à m'enfuir, « si la pauvre Catherine avait eu confiance en vous, et si elle avait pris le titre ridicule, méprisable et dégradant de Madame Heathcliff, elle aurait-elle aussi présenté bientôt un tableau semblable? Elle n'aurait pas supporté en silence votre abominable conduite, sa haine et son dégoût auraient trouvé une voie. » Le dossier du banc et la personne d'Earnshaw s'interposait entre lui et moi, de sorte que, au lieu d'essayer de m'atteindre, il prit sur la table un couteau et me le jeta à la tête. Je reçus le coup derrière l'oreille, mais je rejetai le couteau, courus vers la porte, et lui adressai une phrase qui, j'espère, dut entrer plus avant que n'avait fait son projectile. La dernière vue que j'ai eue de lui a été un élan furieux qu'il a pris et où il a été arrêté par l'étreinte de Hindley, si bien que tous deux sont tombés sur le sol, empêtrés l'un dans l'autre. Dans ma course à travers la cuisine, j'ordonnai à Joseph d'aller rejoindre son maître, je secouai Hareton occupé à jouer dans le corridor, et heureuse comme une âme échappée du purgatoire, je sautais, je volais tout le long du sentier, et fâché de ses détours, je finis par couper court à travers la lande, guidé par la lumière de la grange. Et certes, je préférais être condamné à un éternel séjour dans les régions infernales qu'à un séjour seulement d'une nuit de plus sous le toit des Hauts de Hurlevent. Isabelle cessa de parler, prit une tasse de thé, puis elle se leva, m'ordonna de lui mettre son bonnet et un grand châle que j'avais apporté, puis, sourde à ma prière de rester encore une heure, elle monta sur une chaise, baisa les portraits d'Edgar et de Catherine, et après avoir embrassé à mon tour, descendit vers la voiture, accompagnée par Fanny, qui aboyait de joie d'avoir retrouvé sa maîtresse. Elle partit, et jamais plus elle ne devait revoir ses environs. Mais une correspondance en règle s'établit entre elle et mon maître dès que les affaires furent mieux fixées. Je crois qu'elle est allée demeurer dans le sud, près de Londres, et que c'est là que lui est né un fils, quelques mois après son évasion. Cet enfant fut baptisé Linton, et dès les premières fois qu'elle en parla, elle nous le représenta comme une créature maladive et irritable. Monsieur Heathcliff, me rencontrant un jour dans le village, me demanda où elle habitait. Je refusais de lui dire. Il répliqua que ma précaution était vaine, mais qu'Isabella devait bien se garder de venir chez son frère, et que celui-ci, s'il tenait à la conserver, devait la détourner de venir chez lui. Malgré mon refus de lui donner aucune information, il découvrit par quelque autre domestique à la fois le lieu de son séjour et l'existence de l'enfant. Pourtant, il ne fit rien pour la tourmenter, en raison sans doute de son aversion pour elle. Il me demandait souvent des nouvelles de l'enfant quand il me rencontrait. Lorsqu'il apprit le prénom qu'on lui avait donné, il ricana un sourire et me dit « Ils veulent donc que je le haïsse aussi, n'est-ce pas ? Je ne crois pas qu'ils désirent que vous sachiez quelque chose à son sujet, » répondis-je. « Oh, mais je saurai la voir quand j'en aurai besoin, » reprit Heathcliff. « Oh, peux-y compter ?» Par bonheur, la mère mourut avant que ce moment n'arrivât. C'était environ 13 ans après la mort de Catherine. Et le petit Linton avait alors un peu plus de 12 ans. Le jour qui suivit la visite inattendue d'Isabella, je ne trouvais pas l'occasion de parler à mon maître. Il évitait toute conversation et semblait hors d'état de discuter quoi que ce soit. Quand je pus me faire entendre de lui, je vis qu'il avait plaisir à apprendre que sa sœur avait abandonné son mari. Il détestait ce dernier avec une intensité que l'on n'aurait jamais attendue d'une nature si douce. Ce sentiment se joignit à son chagrin pour le transformer en un parfait ermite. Il évitait le village en toute occasion et passait une vie entièrement recluse dans les limites de son parc et de ses terres, vie variée seulement par de solitaires promenades sur la lande et des visites au tombeau de sa femme, généralement le soir ou le matin de très bonne heure, pour être sûr de ne rencontrer personne. Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux. Il n'avait pas prié, lui, pour être hanté par l'âme de Catherine. Le temps lui apporta la résignation et une mélancolie plus douce que la joie vulgaire. Il se rappelait la mémoire de la morte avec un amour ardent et tendre, et il aspirait avec confiance vers un monde meilleur où il ne doutait pas qu'elle ne fût allée. Dans la vie réelle, il trouva également une consolation et des affections. Je vous ai dit que pendant les premiers jours, il semblait indifférent à la petite chose que sa femme lui avait laissée en partant. Mais cette froideur se fondit aussi vite que la neige en avril, et avant que sa fille ne pût balbutier une parole ou faire un pas, l'enfant régnait déjà en tyran sur son cœur. Elle s'appelait Catherine, mais jamais son père ne la nommait de son nom en entier, de même qu'il n'avait jamais voulu abréger le prénom de la première Catherine, probablement ce que Heathcliff avait l'habitude de le faire. La petite était toujours appelée Cathy, cela la distinguait pour lui de sa mère et pourtant la rattachait à elle. La fin de Hindley Old Shaw fut telle qu'on pouvait l'attendre. Elle suivit de 6 mois à peine celle de sa sœur. Nous autres à la grange, jamais nous n'avons très bien su quel a été son état pendant ces 6 mois. Tout ce que j'ai appris, je l'ai su lorsqu'il m'a fallu aller aider aux préparatifs des funérailles. Monsieur Kenneth arriva le premier à annoncer l'événement à mon maître. « Eh bien, Nelly, me dit-il un matin, entrant à cheval dans notre cour, de trop bonne heure pour que je n'en fusse pas alarmé, c'est à votre tour et au mien d'être en deuil à présent. Devenez-vous qui est mort ?»« Et qui donc ?» demandai-je inquiète. « Devinez, me répondit-il en descendant et en attachant la bride de son cheval à un crochet près de la porte. « Et préparez le coin de votre tablier. Je suis certain que vous en aurez besoin. »« Ce n'est pas M. Heathcliff à coup sûr, m'écriai-je. « Eh quoi, auriez-vous des larmes pour lui ? Non, Heathcliff est un jeune gaillard, il a l'air tout fleuri aujourd'hui. Je viens justement de le voir, il engraisse rapidement depuis qu'il a perdu sa moitié. « Mais qui est-ce alors, M. Kenneth ? » répétai-je avec impatience. « Un Hindler Shaw, votre vieil ami Hindler, mon méchant compère, bien que depuis longtemps il soit devenu trop sauvage pour moi. Là, vous avez bien dit qu'il y aurait des larmes. Mais égayez-vous, il est mort, fidèle à son caractère, ivre comme un lord. Pauvre garçon, j'en suis bien affligé aussi. On ne peut pas s'empêcher de regretter un vieux compagnon, bien qu'il m'ait souvent joué les plus vilains tours. Il avait à peine 30 ans, oh, votre âge tout juste. Qui aurait pensé que vous étiez né la même année ? » J'avoue que ce coup fut plus grand pour moi que celui même de la mort de Madame Linton. D'anciens souvenirs remontaient en foule à mon cœur. Je m'assis sur le seuil et je pleurais cruellement, incapable de conduire moi-même M. Kenneth auprès de mon maître. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si le pauvre homme était mort de mort naturelle, et cette idée me tourmentait si obstinément que je résolus de demander la permission d'aller au haut de Hurlevent et d'aider aux préparatifs de l'enterrement. M. Linton eut beaucoup de répugnance à consentir, mais je suis lui exposé avec éloquence dans quelles conditions misérables devait se trouver le cadavre. Et je lui dis que mon vieux maître et frère de lait avait bien droit à mes services. Je lui rappelai en outre que le petit Hareton était le neveu de sa femme et que, en l'absence de toute parenté plus proche, c'est lui qui aurait à prendre le rôle de tuteur, qu'il aurait aussi à s'enquérir de l'état de la propriété et de toutes les affaires de son beau-frère. Il était hors d'état en ce moment de s'occuper de tout cela, mais il m'ordonna d'en parler à son avocat et pour finir, il me permit d'aller au haut de Hurlevent. Son avocat avait été aussi celui d'Earnshaw. J'allai tout de suite le voir à Jim Merton et lui demandai de m'accompagner. Mais il secoua la tête, me dit qu'il fallait laisser Heathcliff seul, et que quand on connaîtrait la vraie situation, Hareton se trouverait aussi pauvre qu'un mendiant. Son père est mort, très endetté, et toute sa propriété est hypothéquée, et la seule chance qui reste à son héritier naturel est de toucher assez le cœur du créancier pour que celui-ci soit amené à user de douceur avec lui. En arrivant au haut de Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu pour veiller à ce que tout se fît convenablement, et Joseph, qui avait l'air suffisamment éploré, se montra heureux de ma venue. M. Heathcliff dit qu'il ne voyait pas qu'on eût besoin de moi, mais que je pouvais rester et régler les funérailles, si cela me plaisait. En bonne justice, le corps de ce fou devait être enterré dans le carrefour sans cérémonie d'aucune sorte. Comme il m'est arrivé de le perdre de vue 10 minutes hier après-midi, il a profité de cet intervalle pour verrouiller contre moi les deux portes. Il a passé toute la nuit à boire pour se faire mourir. Ce matin, l'entendant ronfler comme un cheval, nous sommes entrés et nous l'avons trouvé ici, couché sur le banc. On aurait pu l'écorcher et le scalper sans le réveiller. J'ai envoyé chercher Kenneth, mais avant qu'il se fût venu, la bête était changée en charogne. Non seulement il était mort, mais déjà il était froid et raide, et vous comprenez qu'il aurait été utile de se donner plus de peine à son endroit. J'insistais pour que les funérailles fussent décentes. M. Heathcliff me dit qu'en cela encore, je pouvais agir à ma guise. Seulement il me rappela que l'argent pour toute cette affaire sortirait de sa poche à lui. Il conservait une attitude indifférente, n'indiquant ni joie ni chagrin. Si l'on pouvait y lire quelque chose, c'était comme une vague satisfaction d'avoir proprement achevé une besogne difficile. Une fois, en vérité, je remarquai dans sa mine quelque chose comme du triomphe. Ce fut à l'instant où l'on emportait le cercueil hors de la maison. Il avait eu l'hypocrisie de s'habiller en deuil, et avant de suivre le cortège avec Harton, il fit monter sur la table le petit malheureux et lui murmura, avec un accent particulier, « Et maintenant, mon brave garçon, vous êtes à moi, et nous verrons bien si un arbre ne devient pas aussi tordu qu'un autre, quand c'est toujours le même vent qui souffle sur les deux. » La naïve petite créature prit plaisir à ce discours. Il joua avec les favoris de Heathcliff et lui tapota la joue. Mais moi, qui avais deviné ce que le drôle voulait dire, je fis sèchement observer qu'il fallait que l'enfant retournât avec moi à South Cross Grange. « Il n'y a rien au monde, » dis-je à Heathcliff, « qui soit moins à vous que lui. » « Est-ce aussi de l'avis de Linton ?» demanda-t-il. « Sans doute, c'est lui qui m'a ordonné de prendre l'enfant avec moi. » « Eh bien, dit le drôle, nous ne discuterons pas la question maintenant. Mais j'ai eu envie de me faire la main en dressant un jeune garçon. Ainsi donc, déclarez à votre maître que s'il veut m'enlever celui-ci, il faudra que je le remplace par mon propre fils. Je ne m'engage pas à laisser partir Hutton sans discussion, mais vous pouvez être tout à fait sûr que s'il part, je ferai venir l'autre. Ayez bien soin de dire cela à votre maître. » Cette menace suffisait pour nous lier les mains. Edgar Linton, à qui je le rapportais, ne parla plus d'intervenir. L'hôte nouvellement venu était maintenant le maître de Haut-de-Hurlevent. Il prouva à la Tornay, qui le prouva à son tour à M. Linton, que Earnshaw avait engagé jusqu'au moindre yard de ses terres pour avoir de quoi subvenir à sa manie de jeu, et que tout cela se trouvait engagé entre ses mains à lui, Heathcliff. De cette façon, Hareton, qui aurait dû être le premier gentleman du voisinage, fut condamné à une dépendance absolue vis-à-vis de l'ennemi invétéré de son père, et c'est ainsi qu'il vit dans la maison comme un domestique, privé même de l'avantage de toucher les gages, est tout à fait incapable de se faire droit à lui-même à cause de son manque de relations et de l'ignorance où il est du tort qu'on lui a fait.